c'est le journal d'Amélie Perrier. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une réforme inédite depuis 31 ans aux États-Unis. Donald Trump y est enfin arrivé juste avant Noël. Il fait un gros cadeau fiscal aux entreprises et aux plus riches. Son camp applaudit. Cette réforme-là risque de faire râler les automobilistes. En France, 80 km/h sur les routes secondaires au lieu des 90 actuelles. Le gouvernement semble avoir quasiment pris sa décision. Députés au bord du burn-out, trop de réformes. Les élus finissent l'année à plat. Dur de suivre le rythme du président. 40 ans aujourd'hui. Nous irons aussi à Saint-Féliu d'Aval pour les funérailles ce matin des collégiens victimes de l'accident au passage à niveau de Millas. Et puis au ministère de la Culture où Françoise Nyssen convoque les patrons des télé et radios publiques pour dessiner l'avenir de votre chaîne notamment.
Et le patron des patrons est donc l'invité de Léa Salamé à 7h50. J'ai nommé Pierre Gattaz.
France Inter.
Et enfin, une victoire au Congrès pour Donald Trump.
Oui, le président des États-Unis l'attend depuis son investiture en janvier. Alors hier, il avait de quoi se réjouir d'avoir fait passer sa grande réforme fiscale. Une baisse d'impôts inédite depuis 1981, depuis Ronald Reagan. Un cadeau à 1500 milliards de dollars sur la décennie à venir. Trump baisse le taux d'imposition des sociétés et le taux maximum pour les particuliers les plus riches. Une étape clé du mandat, c'est la correspondance à Washington de Grégory Philips.
Sur les marches de la Maison-Blanche, c'est un Donald Trump triomphant qui savoure au milieu des dizaines de représentants et de sénateurs républicains invités pour l'occasion. C'est toujours génial quand vous gagnez, dit le président. Nous rendons sa grandeur à l'Amérique. Autour de lui, les élus républicains qui n'ont pas toujours été tendres avec le président n'ont de cesse de le remercier et lui tresser des lauriers. Pour l'analyste politique John Guidzi, proche des républicains, ce 20 décembre marquera peut-être le jour de la réconciliation entre Trump et le Parti conservateur et c'est une bonne chose dans la perspective des élections de mi-mandat en novembre 2018.
Beaucoup de républicains qui soutiennent et qui admirent le programme du président pensent qu'il peut énerver une partie de son électorat avec ses tweets. Donc, s'il arrive à faire les deux, tirer le crédit de cette réforme fiscale et de ce triomphe législatif, et qu'il arrête ses tweets, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour les gens de son parti de s'entendre et de discuter sérieusement avec lui.
2017 se termine pour Trump sur une victoire personnelle et politique, mais le pays reste divisé. À la Chambre des représentants, aucune voix démocrate pour cette réforme fiscale qui, selon Nancy Pelosi, va piller la classe moyenne au profit, je cite, des puissants et des plus favorisés. Washington, Grégory Philips, France Inter.
Et comme c'est un peu Noël pour les entreprises américaines avec cette réforme, un certain nombre ont décidé de faire des cadeaux à leurs employés. AT&T dans les télécoms, Comcast, les banques Wells Fargo, Fifth Third, Bancorp ont annoncé hier des bonus pour des centaines de milliers de leurs salariés. Le constructeur Boeing va consacrer 300 millions de dollars à des projets caritatifs ou pour former et améliorer les conditions de travail de ses personnels. AT&T annonce également 1 milliard de dollars supplémentaires d'investissement aux États-Unis. La Californie brûle toujours. L'incendie monstre baptisé Thomas a détruit l'équivalent en superficie de la ville de Los Angeles, plus de 1100 km². Il n'est contenu qu'à 60% selon les pompiers. Les soldats du feu redoutent les vents très forts annoncés par la météo. Thomas, le deuxième plus grand incendie de l'histoire de la Californie, menace encore s'étaler aussi sur franceinter.fr. La Catalogne va-t-elle s'embraser à son tour? La région espagnole vote aujourd'hui pour décider si les indépendantistes restent au pouvoir ou pas. Deux mois après la déclaration d'indépendance, c'est un scrutin inédit avec un président de région sortant, Carles Puigdemont, en exil à Bruxelles pour échapper aux poursuites lancées par Madrid. Les pro-indépendance et le camp espagnoliste sont au coude à coude dans les derniers sondages.
Et voilà qui va contrarier certains automobilistes.
Oui, la vitesse maximale sur les routes secondaires en France pourrait passer de 90 à 80 km/h. Officiellement, rien n'est encore décidé. Ce sera pour la mi-janvier, mais hier, le site motonet.com a dévoilé une note de 5 pages de la sécurité routière. Une note envoyée à tous les préfets de France. On peut y lire tous les arguments en faveur de la réduction de la vitesse. Et tant pis, Aurélien Colli, si la majorité des automobilistes se montrent hostiles.
Le Premier ministre ne restera pas inactif, les bras croisés, pour des soucis d'impopularité. Commentaire de Matignon qui se contente de répéter qu'Édouard Philippe est favorable à la mesure. 10 km/h en moins, c'est 300 à 400 morts de moins par an. Il faut avoir le courage d'assumer, indique encore un de ses conseillers, qui précise que ce sont des fuites dans la presse qui ont imposé le sujet et qu'il est donc normal que les préfets reçoivent des éléments pour alimenter le débat et la réflexion dans leur département. Sauf que ces éléments sont des arguments pour le passage à 80 km/h. Un un vrai manuel pour convaincre. Avec plus de 1000 morts par an, les excès de vitesse sont la première cause de mortalité sur les routes, explique d'entrée de jeu la note qui ne s'embarrasse pas des nuances, alors qu'en réalité ce sont les vitesses excessives ou inappropriées. Une infographie explique ensuite que rouler vite est un mauvais calcul, avec détail des distances d'arrêt en fonction de la vitesse, du temps dérisoire gagné en roulant à 90 km/h. Elle chiffre même les économies en passant à 80 km/h, 120 euros de carburant et 30% d'émissions polluantes sur un an pour un automobiliste. On a du mal à croire que tant de soins n'anticipent pas une décision déjà prise.
Manger mieux au meilleur prix pour les consommateurs, mais surtout pour les agriculteurs. C'était l'enjeu des débats des États généraux de l'alimentation. 5 mois de travaux et les conclusions sont rendues aujourd'hui. Le gouvernement veut annoncer apparemment la fin des promotions choc dans les supermarchés. Il va imposer aux distributeurs un seuil de revente à perte de 10%. En clair, c'est un prix minimum, le prix d'achat plus 10%. Autre article du futur projet de loi pour lutter contre le gaspillage. Le gouvernement veut obliger les cantines d'entreprises, de lycées ou d'hôpitaux à donner les denrées qu'elles n'ont pas écoulées à des associations caritatives comme c'est déjà le cas pour les supermarchés. Encore du pain sur la planche donc pour les députés. Or, certains finissent leur premier semestre à l'Assemblée épuisés. Ils ont été mis à rude épreuve par le rouleau compresseur des réformes promises par Emmanuel Macron. Si le président, tout juste quadragénaire aujourd'hui, peut travailler 20 heures par jour, ses troupes, elles, commencent à fatiguer. Députés au bord du burn-out, c'est un reportage au Palais Bourbon signé Laurence Perron.
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 40 ans et la capacité de survivre en dormant 4 heures par nuit. Hier, scène étonnante, à l'Assemblée nationale, un député qui craque, François-Michel Lambert, député pourtant depuis 2012, passait des écologistes à La République En Marche.
On est sur le fil du rasoir et un jour, ça va craquer. Trouvons un autre mode de fonctionnement entre le gouvernement et le Parlement, notamment la majorité, parce que ça va ou craquer sur les vies de famille, ou il y aura des passages en force qui feront que la majorité sera en difficulté.
Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, le reconnaît. Les députés, en 6 mois, n'ont pas chômé.
150 séances, 613 heures de débat, 63 textes examinés, 29 textes de loi ont été définitivement adoptés depuis le mois de juillet.
Il y a les Benjamins, comme Sacha Houlier, 29 ans, député de la Vienne, que cela n'émeut guère.
Je sais pas, je pense que c'est la vie personnelle de chacun et bien d'aller interroger des députés fatigués.
Et puis, les plus armés, peut-être, comme Olivier Véran, médecin hospitalier passé du PS à La République En Marche.
Je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui découvrent la fonction et le mandat politique pour la première fois. Tout à coup, ils se rendent compte que la vie privée passe très souvent, pour pas dire tout le temps, après la vie professionnelle. Quand vous découvrez ça, au début, vous prenez quand même une petite claque.
Voilà pour le diagnostic. Pour le traitement, une bonne trêve des confiseurs qui commence d'ailleurs à la fin de la semaine.
Laurence Perron. Jour de douleur et de recueillement dans les Pyrénées-Orientales. 4 collégiens parmi les 6 victimes de l'accident de Millas sont enterrés aujourd'hui. Les funérailles prévues dans moins de 2 heures à Saint-Féliu-d'Aval. À leur village seront retransmises sur grand écran pour tous ceux qui souhaitent y assister. Un message d'Emmanuel Macron sera lu par le préfet. Dès hier, des milliers de personnes ont accompagné les 4 cercueils jusqu'à la chapelle ardente. Vous y étiez, Anne Lamotte.
C'est un flot incessant de personnes qui vient se recueillir devant les 4 cercueils. Ces 4 cercueils blancs, ces photos aussi d'adolescents en maillot de foot pour l'un, une médaille autour du cou pour l'autre, sur une estrade des petits anges et des bougies, et par terre, un tapis de couronnes de fleurs blanches. Beaucoup sortent de cette chapelle ardente, l'air hébété, les yeux rougis comme Odette.
Je suis du village.
Je les connaissais tous, souffle la grand-mère.
Je les ai toujours vus, tous petits, on les a vus grandir.
Odette qui cache alors ses larmes derrière des lunettes noires.
Je pleure encore, oui, depuis 8 jours que je pleure.
Mais qui retrouve un semblant de sourire quand elle constate le monde autour d'elle.
J'ai jamais vu autant de monde se déplacer, des villages voisins. Il y en a de partout, de Toreil, de Millas, de Vincent, de tous les villages voisins sont venus, sont en train de se recueillir dans la salle pour les vendre. Mais les villages voisins de 35, 40, 50 km autour, c'est très impressionnant.
Voilà le reportage d'Anne Lamotte à Saint-Féliu-d'Aval. À la demande des cheminots, la SNCF organise aujourd'hui à midi une minute de silence partout en France, dans chaque établissement de la SNCF qu'ils souhaitent, et dans les gares où les passagers pourront s'associer. Et puis sur le plan de l'enquête, la conductrice du car scolaire a été mise en examen hier pour homicide et blessure involontaire par imprudence. Le jour J pour l'audiovisuel public. Vous retrouvez tous les matins votre antenne si familière, mais le paysage des radios et des télés publiques pourrait changer. changer totalement dans les mois à venir. Le président Macron l'a dit, un grand travail de réflexion est engagé. Il faut s'adapter aux nouveaux usages des auditeurs et des téléspectateurs. Alors tous les PDG de l'audiovisuel public sont convoqués ce matin au ministère, rue de Valois. Ils ont remis leurs propositions. La ministre Françoise Nyssen va leur dire ce qu'elle en pense. Des propositions, Alexandra Akoun, dont on connaît les grandes lignes.
Aucun rapprochement de structure dans ce document d'une dizaine de pages remis à la ministre il y a bientôt 2 semaines, mais des idées de coopération et pour toutes, France Info, la télé comme modèle. On y retrouve des idées déjà connues, comme celle d'une plateforme culturelle numérique associant France Culture, France 5, l'INA et France Média Monde, et celle de matinale commune en région pour France Bleu et France 3. Côté nouveauté, une offre numérique musicale Arte Radio France, un rapprochement des réseaux de correspondants à l'étranger pour France Télé, France Média Monde et Radio France, et puis des mutualisations pour les achats, sur la cybersécurité. Mais à quelle échéance des décisions seront-elles prises? C'est le flou total. Emmanuel Macron semblait vouloir aller très vite. On promettait des arbitrages pour la fin du mois de janvier. Voilà maintenant que des groupes de travail thématiques et des réunions mensuelles sont annoncées rue de Valois en collaboration avec les entreprises concernées. Même l'Assemblée nationale a décidé de créer son propre groupe de travail resserré sur le sujet sous la houlette du député La République En Marche, Gabriel Attal. Et là, les propositions seraient pour le mois de mars.
Le CSA, lui, s'empare de la cause des femmes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel inflige une amende d'€1 million à Énergie pour un canular diffusé dans l'émission de Coé il y a un an. Un coup de fil d'une auditrice faisant une mauvaise blague à sa belle-sœur, copieusement accueillie d'insultes avilissantes, a jugé le Conseil. Et puis hier, le CSA a aussi mis en demeure France Télévisions, un préalable à une possible sanction pour la séquence entre Christine Angot et l'ex-députée Sandrine Rousseau, au moment où l'élu sortait son livre de témoignages sur l'affaire Baupin, une séquence diffusée dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2.
Merci Amélie Perrier.